Beep.
C'est pas du vent. C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, l'environnement, c'est le monde qui nous entoure. Et ce rapport au monde est dans de nombreuses cultures conditionné par les croyances religieuses. Or, depuis quelques années, les autorités de toutes les religions appellent leurs fidèles à reconsidérer leur rapport à la nature. En 2015, le pape François invitait les catholiques à protéger leur maison commune à travers son encyclique Laudate Si. En 2016, ce sont plus de 200 leaders religieux, chrétiens, musulmans, bouddhistes, sikhs et hindous qui ont exhorté leur communauté à se retirer des énergies fossiles et autres industries minières en argumentant que les dégâts qu'elles génèrent ne sont pas tenables éthiquement. Des vœux qui, si l'on en juge l'état du monde, sont restés pieux. Mais en parallèle des déclarations, heureusement, il y a ceux qui privilégient l'action, comme vous allez l'entendre à travers deux reportages. Nous vous emmenons à la découverte du temple d'or d'Amritsar, dans le Pendjab, en Inde, où désormais les milliers de repas distribués quotidiennement sont 100% bio. Et en Thaïlande, où les moines bouddhistes du temple de Prasangkum, à 150 km à l'est de Bangkok, prêche l'écologie. À mi-distance entre l'Inde et la Chine, la Thaïlande a connu une forte expansion économique depuis les années 80. Le tourisme et l'agriculture, notamment, ont sorti le pays de la pauvreté, mais au prix d'une forte dégradation de l'environnement. En moins d'une génération, le pays a perdu presque la moitié de ses forêts. Face à ce constat, les moines bouddhistes du temple de Prasangkum à Mabuang, dans la province de Chamburi, ont décidé de réagir. À 150 km à l'est de Bangkok, ils ont fondé autour de leur temple et de leur pagode une école, des parcelles agricoles et un festival pour sensibiliser la population à la préservation de l'environnement. Une activité qui ne plaît pas aux autorités, mais dans un pays où 90% de la population est bouddhiste, ils sont pour l'instant protégés. Julien Trembouze est allé les rencontrer.
Vous avez vu comme c'est harmonieux? Il y a beaucoup d'arbres, plein de légumes, plein de fruits. C'est ce qu'on appelle l'harmonie choisie. Et elle est décidée par la biosphère. Je vais vous expliquer tout cela dans le temple. Là, on sort du village communautaire et on va vers le temple. Notre temple est par là. Ici, sur la droite, c'est la communauté. On l'appelle l'éco-village. Ok, on est arrivé. Voici mon temple.
Donc là, on est juste devant le temple, une sorte de petite éolienne au sommet. Vous avez fabriqué ici votre paradis.
Oui, nous avons fabriqué un paradis.
This adobe house.
Ici, c'est ce qu'on appelle des maisons en briques d'adobe. Ce sont les moines qui les ont construites. Et aujourd'hui, ils y vivent. C'est un système très aéré. Il n'y a pas d'air conditionné. On garde le frais grâce à ce système naturel. Nous ne voulons pas détruire notre environnement, vous voyez? Cette année, il fait très chaud et le niveau de l'eau est vraiment bas. D'habitude, il y a de l'eau jusqu'en haut de la cabane. Vous voyez dans la pagode, grâce à la circulation de l'air, c'est frais et harmonieux.
Vous pouvez me dire où est-ce qu'on se trouve ?
Vous êtes ici dans un temple écologique. Nous nous appelons la fondation agricole Mab Eung. Nous avons beaucoup de fruits, de bananes, beaucoup de légumes, de la nature, des oiseaux. Oui, on est autosuffisant.
Vous avez tout planté ici?
Yes, we planted everything here.
Oui, on a tout planté nous-mêmes.
La pagode et le temple est vraiment dénudé, très simple.
Very simple.
Très simple.
Because we try to keep life simple.
Car on essaye de garder la vie la plus simple.
No disturb the nature.
Ne pas déranger la nature.
We try to keep our nature alive.
Nous essayons de garder notre nature en vie.
Every building we not
en respectant en mère nature.
Because we care
Dans aucun bâtiment, nous n'avons l'air conditionné. Nous prenons soin des gens, de notre planète. Nous ne voulons pas polluer Mère Nature. Voilà une maison en briques adobe, faite à partir de la terre de ce sol. Ce sont des maisons qui respirent. On fabrique la maison à partir d'un mélange de terre, d'eau et de tiges de riz. On les mélange et on les met dans des coffres. Ça donne ça.
Et ça fait des bonnes briques pour faire les murs.
Non,
ça ne coûte pas cher.
We make it ourselves.
On l'a fait nous-mêmes.
La pagode a une forme assez particulière.
Yes, we get the idea from the.
On a eu l'idée grâce à ce qu'on appelle le Sanchi.
Sanchi, that is the
Sanchi, c'est l'ancienne forme circulaire des temples indiens à l'époque du Bouddha.
C'était difficile de convaincre les gens de construire un endroit comme celui-ci ici.
The abbot or the leader.
Le leader spirituel de la communauté doit avoir l'idée en premier. D'habitude, l'atmosphère des temples ne ressemble pas du tout au mien. Regardez les bananes. Ça, ce sont des légumes. On peut manger directement sur l'arbre. Regardez ces légumes. Tout est comestible autour de nous. Et à partir de là, c'est plus simple pour nous d'expliquer notre démarche aux gens, aux enfants.
Really delicious.
C'est vraiment délicieux.
C'est bon.
Yeah.
Je le garde.
This one, if you want to
celui-là,
eat,
si vous voulez le manger, il faut le peler, ok?
Now we're going to see.
Maintenant, je vous emmène à l'intérieur de la pagode.
On vient de surprendre un. J'ai l'impression que c'était comme une petite hirondelle.
Oui, les oiseaux nichent ici.
They live here with their family.
Avec leur famille.
The bird. This is we call the Earth Power Buddha.
C'est ce que l'on appelle ici le super Bouddha de la terre.
Ramanai. We get the soil from him.
La terre nous a été offerte par le roi Ramana IX avant son décès.
Beautiful of statue.
Et nous avons sculpté Bouddha, une grande statue à l'image du Bouddha.
Comment vous êtes devenu un moine écologiste?
Eco-monk. Yeah, because.
Moine écologiste? Oui, parce que je me sens responsable spirituellement.
When I touch to the. A lot of people, they.
Je vois bien que les gens tirent avantage de notre terre et la détruisent.
From the Mother Earth, without.
Ils ne prennent pas soin de Mère Nature. Ils mettent du poison et des produits chimiques dans les sols. Mère Nature est malade. C'est comme quand ma mère l'était à la fin de sa vie avec son cancer. Ce sont les produits chimiques qui l'ont tué à petit feu. C'est pourquoi, quand je suis devenu moine, je me suis dit que l'esprit, l'harmonie,
along the same
et la terre doit fonctionner ensemble avec l'économie, l'agriculture. C'est pourquoi mon travail doit donc être toujours en lien avec l'environnement. Mon travail est de prendre soin des êtres vivants et non vivants. C'est pourquoi j'ai beaucoup de respect pour Mère Nature.
Very humble to do this.
Beaucoup d'humilité à accomplir cette mission.
Amen.
Ce que vous entendez, c'est le rituel très matinal des offrandes faites aux moines. Alors, on donne des œufs, du riz, des biscuits, des fruits.
This morning we have the arms around.
Ce matin, nous faisons ce que nous appelons les embrassades. Les embrassades, cela signifie que nous donnons la possibilité aux gens de nous offrir à manger. Et en échange, nous leur offrons du mérite. Nous, les bouddhistes, nous croyons au gamma. Si vous offrez à manger aux moines, vous allez obtenir de la chance pour vous et pour votre famille. C'est pour ça que tous les matins, les moines sortent faire les embrassades.
On vient de revenir de la marche. Ce qu'on vient d'entendre, en fait, c'est le chant qui vient bénir, entre guillemets, les offrandes qui ont été faites aux moines. Maintenant, c'est le moment du petit déjeuner des moines qui vont manger que deux fois. Voilà, c'est un peu l'ambiance ici durant tout ce week-end à côté du temple de Prasampum, où on retrouve aussi une école et la fondation AgriNature qui rassemble aujourd'hui et pendant plusieurs jours plusieurs ONG qui viennent présenter leur projet de développement durable. Et parmi les projets que j'ai trouvé, il y a ce projet d'irrigation et de comment gérer l'érosion des sols.
Hello, my name is Tang.
Bonjour, je m'appelle Tang, je suis de Bangkok, mais maintenant j'habite ici à la fondation agricole Mabung.
Donc là on se trouve à quelques centaines de mètres du temple, et juste en face de nous une sorte de monticule qui a été complètement créé avec une réserve d'eau.
This is how we doing our water management.
C'est comme ça que nous gérons notre eau. Toute cette zone est notre centre d'accueil. Et quand les gens restent ici, ils ont besoin de se laver, d'aller aux toilettes. Nous avons besoin de plus d'eau. Donc, nous avons construit cette réserve d'eau en mélangeant le savoir-faire local et les sciences d'aujourd'hui. C'est du bambou à l'intérieur. Du bambou tressé, comme un immense panier.
Can we have a look? On peut aller voir? Donc là, c'est une petite montagne qui a été bâtie. Il y a de la paille sous nos pieds. Il y a des marches en bambou. Et devant nous, il y a donc ce très grand bassin.
Nous ne voulons pas pomper l'eau en permanence. C'est une vraie perte d'argent. Ça consomme beaucoup d'essence et d'énergie. Alors on utilise la gravité en stockant l'eau en haut de ce monticule à côté des résidents. Ici, tout est fait à la main.
Ça, c'est reproductible dans tous les villages de Thaïlande. Et c'est surtout pas cher, c'est avec le bambou, donc ça veut dire c'est avec les matériaux qu'on trouve sur place.
Oui, on trouve tout localement, ça ne coûte rien. Et c'est ce que nous enseignons ici aux étudiants quand ils viennent en stage. C'est inspiré par les paroles du roi Ramanuf. Fais-le comme un homme pauvre, fais-le comme un homme pauvre pour être autosuffisant. Sois autonome par rapport aux autres, fais un don aux autres. Donc on utilise ce que l'on a, le bambou, la terre, et on les mélange.
Qu'est-ce que viennent apprendre les étudiants qui viennent dans votre école ?
Nous visons à enseigner les compétences nécessaires à la vie. Comment vivre sa vie ? C'est la grande question. Vivre sa vie de façon suffisante en étant autonome pour la nourriture, mais sans être coupé du reste du monde et en restant connecté. Nous avons le Wi-Fi ici. Mais la première chose et la plus importante, c'est d'apprendre à assurer sa sécurité alimentaire en faisant pousser sa nourriture. On apprend à nos étudiants à cultiver, en commençant par la gestion de l'eau, puis les sols et la culture maraîchère. Ça, c'est le début. Après, s'ils veulent poursuivre leurs études et aller plus loin, en faisant pharmacie, médecine, agriculture ou architecture, c'est possible. Mais à l'école de la Fondation, nous enseignons les fondamentaux.
Nous ne croyons pas au système éducatif du gouvernement. Nous ne croyons pas non plus à l'éducation mondiale en général. Ils reproduisent un système éducatif qui fait des jeunes générations des esclaves de l'argent. Quand ils ont fini l'université, ils vont directement travailler pour une entreprise, pour l'État ou autre chose, mais jamais ils ne reviennent pour travailler dans leur communauté ou bien pour leur village et aider leurs prochains. On n'apprend jamais ça à l'école ou à l'université. L'école n'apprend pas aux enfants à respecter la vie sur Terre, d'avoir de la compassion pour sa famille. Elle apprend juste aux enfants à vivre dans un monde industriel et consumériste. L'argent est comme un dieu. Mais en tout cas, ce n'est pas mon idée. Ce ne sont pas nos idées.
Ils apprennent une agriculture raisonnée, une agriculture durable, une agriculture biologique dans votre école?
Yes, that's the theme of education is mean.
C'est ce qu'on apprend aux élèves. C'est-à-dire qu'ils apprennent à planter.
They learn how to make their own.
Ils apprennent quels sont leurs devoirs.
They learn how to.
Ils apprennent comment survivre.
You know, they learn how to
comment
cook,
cuisiner,
they learn how to plant,
élever des poissons.
They learn how to raise the fish. They learn on those as
ceci dans un principe d'économie suffisante,
as the
comme une ligne de conduite.
Est-ce que la pensée bouddhiste a changé avec le changement climatique?
Non, it's the spirituality.
Non, la spiritualité, l'esprit de l'enseignement bouddhiste est toujours le même.
They have been
Il y a eu peu de changements avec le changement climatique.
Climate change.
Peu de gens se préoccupent de ce sujet. Et même s'ils se sentent concernés, ils ne font rien, aucune action. Vous comprenez ce que je veux dire? Comme leader des moines de ce temple, je m'inquiète du changement climatique. Ça me préoccupe beaucoup. Je dois utiliser mon savoir pour innover, construire les bâtiments, les rafraîchir. Et que tout cela soit harmonieux, bon pour notre méditation. J'aide ici les jeunes moines et les jeunes générations. Ils doivent apprendre à combattre le réchauffement climatique, à essayer de réduire les désastres liés à ce changement. En même temps, nous nous préparons à nous défendre, car à cause du changement climatique, cela va devenir difficile de faire pousser notre nourriture. Mais on doit apprendre à survivre avec ce problème.
Les activistes de l'environnement comme vous, les moines bouddhistes, sont à la fois très écoutés, parce que 90% de la population thaï est bouddhiste et pratiquante, mais vous êtes aussi menacés.
Oh, yeah, some.
Ah oui,
in the south,
dans le sud,
the south of Thailand.
Dans le sud de la Thaïlande,
some people,
il y a des gens
très
agressifs. Et très en colère quand on leur dit de ne pas toucher à la forêt. Ils nous disent, les coupes en forêt, ce n'est pas votre affaire. Ce n'est pas l'affaire des moines. Vous voyez? Même si on sait qu'ils trichent, qu'ils ne respectent aucune loi, ils coupent les arbres. Et on ne peut pas défendre la forêt.
Pour protéger la forêt, les moines ont ordonné des arbres. C'est-à-dire que les arbres sont devenus des moines. Ça a été une réaction extrêmement importante et suivie.
People in Thailand, they respect.
Les gens en Thaïlande respectent les moines bouddhistes.
Their custom, when they saw the.
La coutume veut que lorsqu'on voit un moine ordonner un arbre,
they don't want to cut it.
On ne coupe pas.
They don't want to deforest.
On ne peut plus toucher à la forêt.
But some people didn't
care. Mais certaines personnes s'en foutent.
How much we ordain the trees?
Vous savez, on a beau rendre sacré les arbres, ce n'est pas une solution pour préserver la forêt. Le plus important est d'apprendre aux gens à survivre et vivre avec les arbres en harmonie. Pas ordonner les arbres, ordonner les gens. Ça veut dire leur donner de l'éducation. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous montrer les bons projets, ceux qui suivent les idées du roi Rama IX. On appelle cela l'économie de suffisance. Ce sont de nouvelles théories. Nous divisons le terrain de la sorte. 30% d'eau, 30% de rizière, ce que nous mangeons, 30% pour planter les arbres et les légumes, et 10% pour construire un abri. Ce qui donne 100% non pas de monoculture, mais d'écologie, comme un Éden.
De production très différents sur tout le site. Il y a même une sorte de ferme sur l'eau. Et son propriétaire qui me sourit depuis tout à l'heure. Je vais aller le voir, discuter un petit peu. Donc là, on est sur une sorte de petit ponton au milieu d'un lac. Et sur ce lac, il y a des espaces qui ont été plantés.
C'est un modèle pour les gens qui vivent près d'une rivière ou d'un canal, qui n'ont plus assez de terre pour cultiver à cause de la montée des eaux. Alors, comment faire pour survivre ? Ils peuvent faire une structure flottante en bambou, comme celle que nous voyons, une maison et un jardin qui flottent. À partir de cette structure, on peut planter directement dans les bacs flottants. Ici, des piments, là, des tomates thaï, des haricots rouges, du basilic. Nous nourrissons aussi des grenouilles. Les Thaïlandais mangent des grenouilles. Vous les voyez là. Il y en a une grosse ici.
Ah oui, il y a des grenouilles. Et les grenouilles mangent les insectes.
C'est vrai, les grenouilles mangent les insectes. Le soir, on rajoute même des lumières pour attirer les insectes et qu'ils soient mangés par les grenouilles. Je m'appelle Kirk.
Captain Kirk?
Not Captain Kirk, Copan.
Non, pas Captain Kirk, Copan. Je travaillais dans le temps dans l'industrie chimique, dans la recherche. Pour les usines Samsung et iPhone. Je suis à la retraite depuis 3 ans. Ça a changé ma vie de devenir un fermier maintenant. Je dois survivre par moi-même.
Qu'est-ce qui a fait que vous êtes passé d'un monde où vous travaillez dans l'industrie chimique polluante à un monde où c'est le développement durable?
Le déclencheur, c'est que j'ai vu une multitude de crises en Thaïlande. Il y a eu la crise financière il y a 20 ans et maintenant la crise migratoire. Et puis j'ai vu de très grosses entreprises faire faillite et les gens perdre tout ce qu'ils avaient. Par contre, ceux qui ont leur terre peuvent cultiver, nourrir les animaux et survivre par eux-mêmes. Par exemple, si vous laissez votre argent dans une banque pour 20 ans, avec 1 million de bahts, soit 28 000 euros, à votre avis, combien d'intérêts vous allez toucher? 1 million pendant 20 ans? Combien? En vous donnant 10% d'intérêt par an, ça fait 2 millions en 20 ans, ok. Maintenant, Si vous achetez des arbres pour 10 bahts l'unité, 30 centimes d'euros, et que vous en plantez 10 000 par hectare, après 20 ans, les 10 bahts se transforment en 15 000 bahts, soit 420
euros.
C'est un investissement à long terme. En plus, vous créez de l'oxygène et vous faites baisser la température de la planète. Pourquoi ne pas faire pousser plus d'arbres? Pourquoi ne pas verdir notre terre? Maintenant, on essaye de réparer la terre avec le bio, les micro-organismes, comme sur mon terrain.
C'est l'enseignement du bouddhisme. Nous devons accepter le gamma. Mais nous ne pouvons pas changer le passé. On ne peut même pas prédire le futur. Mais il faut vivre avec le moment présent, le mieux possible. Bien penser, bien parler et faire le bien. C'est la voie de l'enseignement bouddhiste.
Si
vous faites tout ça dans cette vie, votre prochaine vie sera bonne. Le gamma signifie réaction.
Consensus on global warming.
Climate is changing, weather patterns are changing, and that over the long term it will have a significant damage.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
I'm worried about the future we're going to leave to our children in the world.
Des questions, des réactions. Rendez-vous sur la page Facebook de l'émission.
For centuries, the rays of the sun have warmed.
And start to prepare.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
C'est un endroit majestueux qui ne désemplit pas. Le temple d'or d'Amritsar au Pendjab, dans le nord-ouest de l'Inde, est le lieu le plus sacré du sikhisme, la cinquième religion du monde. Les sikhs, reconnaissables par leurs cheveux longs enrobés dans un turban, croient en un seul dieu, en la réincarnation et à la notion de karma. Posé au milieu d'un immense lac, le temple d'or est accessible par un pont rempli de pèlerins. Sa façade dorée se reflète dans les eaux. Jour et nuit, c'est l'affluence, pour les repas végétariens notamment, qui y sont servis gratuitement 7 jours sur 7. Et depuis quelques mois, les gestionnaires religieux du temple ont décidé que tous les aliments devaient devenir bio, par respect pour la nature et pour montrer l'exemple dans ce pays à l'agriculture ravagée par la révolution verte. Un défi immense à la portée symbolique. C'est un reportage de Sébastien Farcy.
This is the place where this shrine was being built.
Nous sommes ici, à l'endroit où s'est assis notre cinquième gourou, Arjan Dev, pour superviser la construction de ce temple. C'est donc un lieu important pour nous.
Nous sommes dans le temple d'or d'Amritsar avec Gurdjit Singh, de l'association Eco Amritsar, une association environnementale de Sikhs.
Vous savez, la religion sikh est très ouverte. Vous voyez ici, il y a quatre entrées dans cette cour du temple. C'est parce qu'en Inde, les castes sont rassemblées en quatre groupes. Les brahmanes, Khatri, Shudra et Vaisha. L'intention de Guru Nanak était de les accueillir et de les rendre égaux. Dans ce but, il a donné le même nom à tous les Sikhs, Singh. Par exemple, moi je m'appelle Gurjit Singh. Ceci pour ne pas qu'on puisse deviner de quelle caste je suis.
Il a donc mis fin au système des castes.
Oui, il a mis fin au système de castes, car il ne doit pas y avoir de division entre les hommes. Ils sont tous égaux. Dans le premier chapitre de notre livre saint, il est dit que si vous faites partie de la classe la plus élevée, on attend de vous que vous traitiez tous les êtres humains de la même manière.
Et donc quel est le lien justement entre cette mentalité d'ouverture et le langar, le repas communautaire offert à tout le monde?
Quand nous rentrerons, vous verrez que toute personne, quelle que soit sa caste ou ses origines, vient s'asseoir en ligne pour prendre le langar. Il n'y a aucune restriction. Personne ne vous demandera si vous êtes hindou, musulman ou autre. On vous servira simplement le langar. Le message principal est l'égalité entre les êtres humains. Venez, entrons. Ici, on sert entre 50 et 70 000 repas par jour. Et lors des occasions spéciales, cela peut s'élever à 350 000 personnes. Dans la cuisine, il y a jusqu'à 1 800 kilos de lentilles cuisinées dans une seule marmite.
Donc nous arrivons près des cuisines et surtout près de la salle du repas, cette fameuse salle du langar, le repas qui est offert à tout le monde qui vient s'asseoir. C'est ici qu'entre 40 000, 50 000, voire 70 000 personnes mangent chaque jour gratuitement. Dans ce temple le plus sacré de la religion sikh, le temple d'or.
Joignez vos mains.
Pourquoi faut-il recevoir la galette avec les deux mains?
C'est une preuve de respect.
On s'est assis pendant 10 minutes, on se lève, on prend nos assiettes et il nettoie déjà le sol. Et c'est parti pour un nouveau service. Et cela fonctionne ainsi toute la journée?
Oui, quasiment 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La cuisine s'arrête pendant environ une demi-heure le soir. Ici, vous pouvez voir les galettes qui sont préparées.
Qu'est-ce qui est préparé ici?
Ils ont séparé les différentes sections. Les galettes ici, les lentilles là.
And everybody is a volunteer here.
Volunteer.
Ouais, tout le monde ici est bénévole.
Quelques personnes sont payées, mais entre 80 et 90% du personnel ici est bénévole.
Vous pouvez demander à une personne combien de galettes il cuisine ici chaque jour?
Nous avons une machine qui cuit les galettes. Elle en cuit entre 5 et 6 000 par heure. Et elle marche pendant 8 à 10 heures par jour. En plus de cela, une tonne de farine est utilisée pour confectionner des galettes à la main. Cela permet d'en produire beaucoup plus.
Yeah.
La grande majorité de cette farine, de ces oignons et de ces lentilles est offerte au Temple d'Or par les agriculteurs de la région. Une manière pour ces paysans majoritairement sikhs de montrer leur adhésion à ce message de générosité. Mais les institutions religieuses font également pousser une partie des aliments distribués sur leurs propres terres. Cela représente environ 10% de toute la nourriture et c'est là que la révolution est en train de naître. L'organisation responsable de tous les temples sikhs du nord de l'Inde a en effet récemment décidé d'arrêter d'utiliser des engrais et des pesticides chimiques sur une partie de ses champs et de les traiter uniquement de manière biologique. Harcharan Singh, secrétaire en chef élu de cette organisation sikh du SGPC, nous reçoit dans son bureau situé dans l'enceinte du Temple d'Or et nous explique comment il a l'intention d'étendre ce mouvement.
Nous avons des milliers d'acres de terre autour des temples, dont plus de 60 hectares sont traités de manière biologique. L'un de ces champs se situe à côté d'Amritsar, avec un spécialiste dédié. Les récoltes et les légumes de cette terre sont entièrement utilisés ici pour le langar. Mais cela n'est que le début, car l'énorme quantité dont nous avons besoin ne peut être produite par 60 hectares de terre. Donc nous utilisons également les aliments offerts par les agriculteurs. Aujourd'hui, 80% de la nourriture cuisinée vient de leurs dons. Et nous les acceptons, que ces légumes soient biologiques ou pas. Nous ne pouvons pas les refuser. Mais nous espérons qu'à travers notre exemple, nous les encouragerons à se convertir à l'agriculture biologique.
Nous partons donc maintenant avec Gurjit à la découverte des premiers champs biologiques lancés par les autorités religieuses autour des temples sikhs appelés Gurudwara. Et au bout d'une heure de route, nous arrivons à Satlani Sahib, à une quarantaine de kilomètres d'Amritsar. Nous apercevons de loin les deux grandes flèches d'une trentaine de mètres de haut érigées devant ce lieu saint. Et tout autour s'étendent de grandes plantations. Ce temple possède 20 hectares de terre et depuis le mois de décembre dernier, près du tiers est dédié à l'agriculture biologique. On y fait pousser de tout, des radis aux épinards en passant par les carottes et le blé bien sûr. Cela encadré par un fermier bien costaud qui arbore un sourire généreux sous un grand turban indigo. Hardeep Singh est le responsable de ce projet novateur et il nous emmène sur ses champs très enthousiaste.
Regardez celui-là, il est plus petit. Et l'autre, qui a grandi de manière biologique, il est gros. Et ils n'ont que 2 semaines de différence d'âge.
Et qu'est-ce que vous utilisez comme pesticide biologique alors?
Du lassi, c'est tout. Cela fait fuir les petits insectes qui aiment le blé. Pour les autres semences, nous utilisons également des piments verts et rouges et des feuilles de margousier comme insecticide. Puis, pour fertiliser la terre, nous composons ce que nous appelons du ghivamrit, principalement constitué de bouse et d'urine de vache et de sucre, jaggery. C'est de l'agriculture 100% indienne. Et cela marche, il n'y a pas eu de baisse de rendement. Et les légumes sont beaux, les radis sont parfois aussi longs que l'avant-bras. Les petits pois sont sucrés. Et puis c'est moins cher. Avant, nous devions payer une 60aine d'euros pour les engrais et les pesticides. Maintenant, nos buffles nous fournissent l'essentiel de nos engrais.
Et si ça marche aussi bien, pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait ce changement avant ?
C'est que je n'avais jamais entendu parler de ces méthodes. J'ai 48 ans et je ne savais pas qu'on pouvait faire cela.
Et est-ce que vous avez commencé maintenant à en parler aux autres agriculteurs ?
Quand nous avons commencé à convertir nos champs au biologique, les autres paysans m'ont dit que j'allais tout perdre. Maintenant, ils sont impressionnés, mais ils ne sont pas prêts à changer. C'est trop d'efforts pour eux, surtout pour désherber. C'est plus difficile.
Dans les années 70, la terre agricole et bien irriguée du Pendjab a été au cœur de la révolution verte indienne. Le gouvernement voulait mettre fin aux terribles carences alimentaires de la population et il a ainsi financé l'introduction d'importantes doses de pesticides et d'engrais chimiques dans l'agriculture et particulièrement pour le riz et le blé. Cela a permis en une vingtaine d'années de tripler le rendement des champs de riz par exemple et a transformé l'Inde en exportateur de cette graine. Cependant, après deux décennies, les agriculteurs ont vu leur rendement baisser de manière drastique, car les terres avaient perdu de leur richesse naturelle à cause des énormes doses de nitrate, de phosphore et de potassium qu'elles ont reçues pendant toutes ces années. Pour remédier à cette crise, les agriculteurs ont commencé à en mettre encore plus de pesticides, encore plus d'engrais. Une dangereuse course en avant que décrit Gunbir Singh, le représentant de WWF au Pendjab.
To get more and more productivity from the soil, we kept drawing more and more ground.
Pour continuer à obtenir une meilleure productivité, nous avons extrait de plus en plus d'eau des sous-sols et ajouté de plus en plus de pesticides et d'engrais. Donc, ce qui est arrivé, c'est que les réserves d'eau en surface, les nappes phréatiques et les terres sont devenues polluées. Et la preuve de ces dommages, c'est la détérioration de la santé des habitants du Pendjab. Les ressources en eau se sont asséchées, car faire pousser du riz, cela demande énormément d'eau. Et donc les agriculteurs pompent abondamment l'eau du sol et inondent les champs. Donc tous ces facteurs ont contribué à la situation actuelle. Et il nous faut maintenant passer à un système de culture intensive pour les aliments de base dont nous avons réellement besoin. Diversifier ce que nous faisons pousser et introduire des cultures plus rémunératrices et organiques. C'est la seule manière pour reconstituer nos ressources en eau et enrichir de nouveau nos sols.
Cette transition demandera toutefois du temps et pourrait être douloureuse, prévient ce représentant local de WWF.
Productivity will drop. It's bound to happen because this we have through our toxic inputs.
La productivité va chuter. C'est inévitable. Parce qu'en ajoutant autant de produits toxiques, nous avons également tué tous les insectes bénéfiques du sol. Nous avons besoin que les vers de terre reviennent, que ces insectes utiles, qui représentent 95% des insectes qu'on trouve ici, reviennent aussi et tuent ceux qui sont nuisibles. Nous avons besoin que l'eau redevienne douce. Et pour que cela arrive, cela va prendre du temps. Il est possible que nous souffrions de cette diversification pendant 3 ans maximum, car un champ met 3 ans à être converti en biologique. Il faut donc maintenant créer des exploitations intégrées qui comprendront de l'élevage de vaches pour créer le compost, ainsi que d'autres éléments pour augmenter les revenus de l'agriculteur, comme de l'apiculture ou de la pisciculture. Ces activités ne prennent pas trop de place et lui permettent de compenser la baisse temporaire de productivité. Il est temps de cesser cette agriculture toxique et de revenir à quelque chose de naturel.
Ces changements seront en effet longs à mettre en place, car il faudra d'abord que l'État soit convaincu de ses bienfaits. Or cela est loin d'être le cas pour l'instant. Le gouvernement indien a par exemple déboursé, rien que pour l'année dernière, 10 milliards d'euros sous forme de subventions agricoles pour l'achat d'engrais chimiques. Un chiffre qui a été multiplié par 4 en 10 ans, une tendance qui n'incite pas vraiment les paysans à changer leur voie. Mais même si les autorités se mettent à défendre l'agriculture biologique, il faudra encore changer les mentalités, expliquer aux paysans comment transformer leurs champs et les convaincre qu'ils ne vont pas tout perdre d'un coup. C'est cela que sont venus faire les membres de l'association Ecosic dans un village rural situé à 30 km de Firozpur, à l'ouest du Pendjab. Là, au milieu des champs de blé prêts à être moissonnés, ils ont organisé une journée de rencontres et de sensibilisation à l'agriculture biologique à travers des exemples de réussite, comme celui de Kamal Singh Hayer, qui fait pousser 70 différents types de légumes par an sur ses 28 hectares de terre, tout ceci sans pesticides ni engrais chimiques.
Nous sommes 3 agriculteurs pour nous occuper des terres et nous avons réussi à créer une plantation avec un budget nul. C'est-à-dire que nous n'avons aucun coût parce que nous fabriquons nous-mêmes tous nos pesticides. Donc, si on a une mauvaise récolte, ça ne nous ruine pas. Quand nous avons commencé, les rendements étaient moitié moins élevés que ceux des autres exploitations. Mais ensuite, ça a augmenté.
Autour du petit chapiteau où viennent parler les intervenants, des discussions et des débats naissent entre les agriculteurs. Nous nous invitons dans l'une d'entre elles. Gurjit Singh, d'Eco Amritsar, est en pleine conversation avec Hardeep Singh, un agriculteur. Ce dernier écoute de manière très concentrée. Sa tête ondule dans un sens, puis dans un autre. Il pèse le pour et le contre, les coûts et les bénéfices de ce potentiel changement.
Aujourd'hui, j'ai 12 hectares de terre sur lesquels je fais pousser du blé de manière conventionnelle. En plus, nous avons réservé un demi-acre à de l'agriculture biologique pour la consommation de ma famille. Je veux bien étendre cette superficie, mais pour faire cela, je dois engager beaucoup de travailleurs pour désherber. Et il ne me restera plus d'argent à la fin. Aujourd'hui, je peux le faire moi-même sur ma petite parcelle.
Mais réfléchissez, les pesticides coûtent déjà 5000 roupies par kilo. Si vous n'en utilisez plus, vous pouvez alors employer des gens. Pareil pour les engrais.
Oui, c'est vrai, je dépense 300 roupies juste pour les engrais.
À la place, vous pouvez utiliser du lassie pour le blé. Rien que du lassie. Je vais vous montrer les photos des épis qu'on a vus. Vous pouvez le faire également. Doucement, de manière graduelle, et vous verrez que cela marche.
À la fin de la conversation, plusieurs agriculteurs nous rejoignent et écoutent Gurjit attentivement. L'un d'entre eux nous raconte gravement et en aparté l'histoire du district de Bathinda au Pendjab, connu pour être la capitale de production du coton. Là, les agriculteurs ont tellement utilisé et abusé de pesticides chimiques pour cette plantation que les habitants ont commencé à tomber gravement malades et à développer des cancers. Les agriculteurs sont donc de plus en plus conscients des dangers des pesticides et cette journée de rencontre leur aura permis de connaître quelques alternatives. Il faudra maintenant que le gouvernement les aide à réaliser cette transition et surtout à trouver des débouchés à travers la création de labels par exemple, pour ces produits biologiques souvent un peu plus chers que leurs concurrents conventionnels.
Un reportage de Sébastien Farcy, réalisé par François Porcheron.
सबे जी समान अपनी मेहर कर अपनी मेहर कर अपनी मेहर कर अपनी मेहर कर अपनी मेहर कर
Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et à vous pour votre fidélité. N'oubliez pas, il y a une vie après l'émission. Vous pouvez échanger avec nous et suivre l'actualité de l'environnement sur les réseaux sociaux, hashtag C'est pas du vent. Vous pouvez aussi nous réécouter en podcast sur l'application Pure Radio de RFI. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve la semaine prochaine, même planète, même heure.
Demain sur